attention, ce train a pour terminus Massy Palaiseau. Il desservira toutes les gares. Merci. Pour l'aéroport d'Orly, descendre à Antony.
Change at Antony for Orly Airport.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la mobilité peut-elle résoudre les inégalités? Avec notre invitée, la sociologue Marie-Hélène Baquet, professeure à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions de mixité sociale et de démocratie urbaine. Dans Retour à Roissy, qui paraît au seuil, elle a refait le voyage de François Maspero 30 ans après. En 89, l'écrivain avait suivi la ligne B du RER, un voyage et des rencontres qu'il avait racontées dans Les Passagers du Roissy Express. Bonjour Marie-Hélène Baquet.
Bonjour.
Tant qu'à refaire le voyage, il fallait peut-être rester fidèle à l'idée de départ, et c'est ce que vous avez fait, celle du double regard. Maspero était parti avec Anaïck Franz, vous en tandem avec le photographe André Merian pour un résultat en noir et blanc. Lui a photographié, vous avez noté, vous êtes parti à deux, double regard, c'était important.
Oui, c'était important d'abord parce que je cherchais aussi une autre façon de rendre compte de la réalité des banlieues, et donc le regard photographique me semblait un vrai apport. Et puis André Merian, par ailleurs, est un très bon photographe qui ne connaissait pas la banlieue parisienne, donc qui vient de Marseille, et j'avais besoin de ce regard extérieur puisque c'est une banlieue que je connais, dans laquelle j'ai travaillé, dans laquelle j'ai vécu, et donc il me semblait que ce double regard pouvait permettre d'élargir les horizons.
Disons-le tout de suite, ou soulevons cette question, ce qui vaut pour la banlieue parisienne vaut pour toutes les banlieues en France. Vous évoquiez la différence entre lui, originaire de Marseille, qui connaissait aussi peut-être mieux sa ville, mieux sa région que ce territoire francilien que vous avez arpenté donc ensemble à travers ce voyage en RER à la périphérie de Paris. Est-ce que ce que vous avez pu relever, on entrera dans le détail au fil de cette discussion, mais peut valoir sur l'ensemble de la France?
Certains éléments, oui, mais d'abord les banlieues sont plurielles, et même la banlieue parisienne est plurielle, donc il n'y a pas une banlieue. On voit ce que montre l'ouvrage, je pense surtout, c'est que c'est une mosaïque très très diversifiée, et sans doute la banlieue de Marseille est-elle assez différente, d'abord parce qu'elle s'appuie sur un relief qui est très différent, et dans une géographie métropolitaine qui est aussi très très différente. Par contre, on peut voir, je crois, dans toutes les banlieues des inégalités sociales, socio-spatiales, qui sont structurées dans le rapport au centre, à la périphérie.
Et les résultats des politiques de la ville et des interventions, parce que tous ces quartiers, on a voulu les faire changer. On a mis en place des politiques pour tenter de transformer au fil des années, au fil des époques aussi, ces quartiers, avec les effets qu'on va pouvoir observer. 1989, à l'année de François Maspero, c'est une balade le nez en l'air, au-delà du périphérique. Avec François Maspero, il faut avoir le temps et prendre son temps. Écoutez-le au micro du jour au lendemain sur France Culture. C'était en 1990.
Autrefois, c'était les fleuves qui montraient le cours du temps, et aujourd'hui, ça serait les lignes de RER, alors.
Écoutez, j'en sais rien. Trancher. C'est peut-être un livre sans queue ni tête.
Il y a cette phrase que je trouve assez belle, on peut la prendre dans bien des sens. C'était des photos qui prenaient leur temps.
Oui, c'est ce que j'essayais d'exprimer, c'est ça. Bah, prendre son temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile, comme vous le savez, en 1990. C'est ce qu'on a essayé de faire, pour retomber sur mes pieds, dans ce voyage. Un mois pour aller de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'était dans notre esprit prendre notre temps. On pensait qu'on aurait beaucoup de temps, et on avait même emporté des cartes à jouer, moi une traduction. Et puis on s'est trouvé débordé par tout ce qu'on voyait, toutes les marches qu'on a faites, on n'a pas vu la moitié des gens qu'on voulait voir, ni la moitié des choses. Mais, d'une certaine manière, on a quand même pris notre temps par rapport à tant de gens.
François Maspero au micro d'Alain Weinstein. Alors vous avez le droit de prendre aussi votre temps dans votre manière de répondre à cet entretien comme lui le faisait en 1990. Si c'était difficile, comme il le dit en 90, de prendre son temps, on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est encore pire dans un univers où tout s'accélère. Néanmoins, c'est un voyage que vous ne pouviez mener au pas de course, Marie-Hélène Baquet.
Oui, on a pris à peu près le même temps que François Maspero. On a pris un mois, donc, de parcours d'une gare à l'autre en prenant le temps de se perdre, ce qui est un temps effectivement assez rare. Alors, il y a plusieurs temps, en fait, dans ce récit. Il y a le temps du voyage, mais il y a le temps aussi du récit de François Maspero. Donc, les 30 ans qui séparent ces deux voyages et qui permettent de mesurer ce qui a changé. Et effectivement, quand j'entends François Maspero dire c'est un récit sans queue ni tête, j'ai eu un peu la même impression en commençant à l'écrire. Mais finalement, il y a bien des colonnes vertébrales, comme il y a bien des colonnes vertébrales dans le récit de François Maspero. Donc oui, le temps est important parce que c'est le temps de la rencontre qui est très rare et que bien souvent on ne se donne qu'en voyage et en partant loin en voyage.
Vous allez donc suivre le rythme tous les deux de vos prédécesseurs, une station par jour, la recherche quotidienne d'un endroit où dormir, des notes de voyage, 40 gares hors Paris, 5 départements, de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Mais vous ne pouvez pas reproduire ce voyage à l'identique parce que les temps ont quand même changé. Donc vous, ça va être un voyage 2.0 avec un smartphone. Vous avez quand même une carte pour vous guider, vous repérer. Mais quand il s'agit de chercher un endroit où dormir, là, vous pouvez sortir le GPS. Ou mettre en œuvre vos applications de votre téléphone intelligent.
Oui, et ça change effectivement les conditions du voyage, mais on voilà, c'est un voyage du 21e siècle que nous avons fait. Donc effectivement, tous les jours, comme François Maspero et Anaïck France, nous cherchons un hôtel, mais nous le cherchons sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. Nous pouvons prendre des photos aussi avec notre téléphone. Et ça effectivement, ça implique un certain nombre de liens sont sans doute moins coupés qu'ils ne pouvaient l'être pour François Maspero. Puis nous pouvons nous repérer dans l'espace, ce qui n'empêche pas que nous nous perdons et que nous nous perdons assez souvent.
Vous dites prendre une photo ou nous pouvons prendre des photos. C'est justement une discussion que vous avez eue avec votre complice André Mérian lors de ce voyage. Qui photographier, comment prévenir, avoir l'autorisation ou pas. Vous racontez qu'à un moment, lui souhaitait prendre une photo et que vous l'avez appelé aussi à prendre son temps, à une forme de prudence dans la manière aussi d'interagir avec les personnes que vous rencontrez. Et vous écrivez que la banlieue, c'est un endroit qui se mérite, pas un endroit qui se prend.
Oui, parce que là, il y a beaucoup d'images aujourd'hui de la banlieue et c'est sans doute ce qui change aussi par rapport à la période où François Maspero et Anaïck France ont fait leur voyage. On est saturé d'images, mais ce sont un peu toujours les mêmes images et les habitants des banlieues populaires en particulier se sentent un peu souvent spoliés par les images qui sont données d'eux. Et on a eu cette discussion avec André qui me disait « mais j'ai aussi le droit de dénoncer ». Mais ce droit de dénoncer, il se négocie avec les habitants qui habitent ces quartiers. Quand on arrive avec un appareil photo, on est tout de suite vu comme un journaliste. Et donc, pour beaucoup d'habitants, comme un voyeur, finalement, qui va rapporter toujours les mêmes représentations. Donc, ce temps-là de la discussion, de l'échange, était effectivement essentiel. Et puis, c'est aussi ça renvoie au droit à l'image, qui n'est pas qu'un droit juridique, qui, pour moi, est une forme de respect des individus qu'on prend en photo.
Il y a cette question des évolutions de l'image, de cette profusion aujourd'hui, des images qui servent ou qui desservent. Il y a aussi la question des mots. Et là, vous dites, vous, la femme de mots, Marie-Hélène Baquet, n'ayons pas peur des nouveaux mots qui ont pu aussi faire leur apparition. Au diable, l'universalisme de principe. Vous direz noir, blanc, arabe, asiatique, s'il le faut, et vous n'allez pas vous perdre en faux semblant.
Oui, parce que c'est une des dimensions de la banlieue qui est très importante, c'est que elle est aujourd'hui beaucoup peuplée de ce qu'on appelle des minorités racialisées, et que cette racialisation, elle renvoie aussi à des rapports sociaux. Donc, quand on arrive à Roissy, par exemple, et que on voit d'un côté l'arrivée des voyageurs qui sont pour beaucoup des blancs issus des classes moyennes supérieures, et puis de l'autre côté l'arrivée des travailleurs qui viennent entre tenir Roissy, qui font toutes les tâches de service et qui sont en grande majorité des Noirs ou des Maghrébins, on ne peut pas être frappé par cette double entrée, par ce double visage du territoire. Et donc j'ai fait le choix effectivement de noter ce que je voyais et de prendre en compte ce qui marque aujourd'hui notre société, c'est-à-dire la racialisation des rapports sociaux, qui n'implique pas pour moi de jugement de valeur, mais je constate que dans les cités HLM habitent surtout des populations racialisées, par exemple, et je pense que c'est important de le dire.
Oui, alors jusqu'ici, vous, la sociologue, vous étiez quand même plutôt dans une prudence de langage aussi par rapport à ça.
Alors la prudence de langage, oui, mais en fait la prudence de langage a évolué aussi au fil du temps, et en faisant ce voyage, je me suis rappelé que dans mes premiers travaux, c'est une dimension que j'analysais peu au début des années 80, dans les années 90, c'était une dimension qui était peu présente dans le débat public et qui aujourd'hui a rejailli avec force, mais aussi parce que elle est omniprésente aujourd'hui, parce que la discrimination est omniprésente, parce qu'un certain nombre de représentations sont omniprésentes, et parce que les inégalités sont omniprésentes. Donc on ne peut pas faire comme si on était dans une société égalitaire où la couleur de la peau n'avait pas d'importance.
Et la question religieuse, est-ce qu'elle a vraiment pris beaucoup plus de place et d'importance aujourd'hui dans les rapports sociaux et politiques qu'elle n'en tenait il y a 30 ans, au temps de François Maspero et de ce premier voyage?
Oui, la question religieuse a pris une importance majeure. Je crois qu'elle structure beaucoup les rapports sociaux, mais elle ne renvoie pas, comme on l'entend souvent, seulement à l'islam, même si l'islam est très présent. Et on a fait notre voyage au moment du Ramadan. Et il y a par ailleurs différentes façons de pratiquer l'islam. Elle renvoie à différents types d'églises, aux églises évangélistes par exemple, qui sont aujourd'hui très très importantes dans ces territoires, qui se développent à grande vitesse, mais aussi à la religion catholique. Quand par exemple on visite l'église de la Plaine Saint-Denis, où le curé nous explique que son église est pleine, mais qu'elle est pleine de publics très très différents, qui sont des Asiatiques, des Africains, d'Afrique subsaharienne, et que dans son église, il peut avoir une trentaine de langues qui sont parlées par les fidèles. Donc on voit que cette dimension religieuse reprend une place importante.
Alors qu'à l'époque de Maspero?
Je pense qu'à l'époque de Maspero, elle était moins importante, ou en tout cas, si ce n'est moins importante, moins visible. Voilà, il y a une visibilité aujourd'hui de la question religieuse, il y a une visibilité de l'islam notamment, cette question religieuse se voit aussi dans les vêtements, la façon de porter un foulard par exemple, et en particulier au moment du Ramadan, elle était visible dans l'espace public. Je ne pense pas que la question religieuse ait jamais disparu des banlieues. Tous les travaux historiques montrent par exemple le poids de l'église catholique. Dans une ville comme Saint-Denis, il y avait à la fois d'un côté toute la structuration sociale du Parti communiste, et puis à côté il y avait la structuration de l'église. Donc il y avait une concurrence qui existait de fait. Il y a eu aussi tous les prêtres ouvriers qui ont fortement irrigué ce territoire. Donc ça n'a jamais vraiment disparu. Je pense simplement qu'aujourd'hui ça se formulant d'autres termes.
Et ça, c'est intéressant quand vous racontez aussi, Marie-Hélène Baquet, comment la mémoire des banlieues est elle aussi évolutive. Hier, la banlieue ouvrière honorait la mémoire de la résistance et celle du Parti communiste. Aujourd'hui, elle commémore la fin du colonialisme, de l'esclavage, du métissage. C'est plus les mêmes portraits, les mêmes figures qui ornent les murs aujourd'hui.
Oui, et les noms des rues, changent, les noms des équipements changent, et donc on voit émerger une mémoire, une histoire qui a été longtemps écrasée. Et il me semble que c'est bon signe. Ça veut dire que cette histoire commence à entrer dans l'espace public et à être discutée, et que du coup l'histoire des banlieues populaires peut être pleinement réapproprié par l'ensemble de ses habitants.
Hommage à Aimé Césaire à Villepinte, mémoire aux victimes de l'esclavage à Duny, Édouard Glisson au Blanc-Ménil, bientôt Frantz Fanon, enjeu de mémoire et superposition des histoires, peut-être que commence à se tisser lentement un filet commun. La scénariste et romancière Julie Père a elle aussi refait le voyage pour son roman, sa fiction Anomalie, parue l'année dernière aux éditions des Équateurs. Elle nous disait « Quand je visite une ville, je ne me cantonne jamais au centre-ville, il faut toujours que je prenne un train ou un bus et que je m'éloigne pour aller voir ce qui se passe à côté. Sur ce retour, voilà ce qu'elle disait.
J'ai situé ce roman dans les années 80 parce que, sur l'île Saint-Denis, c'est là où j'ai grandi, j'avais été frappée par ces personnes que j'avais connues, que j'avais côtoyées, qui effectivement, comme Daniel, avaient été des militants, des militantes communistes très engagées. Et cette idée d'avoir comme ça, dans l'esprit, la possibilité d'un monde meilleur, d'un monde plus égalitaire. Je pense que je viens de ça. Je viens de ce monde qui s'est fini peut-être, un monde qui était facile, plus facile, je pense, à penser, où il y avait des raisons d'espérer. Et aujourd'hui, il y a peut-être moins de raisons d'espérer, plus de raisons de désespérer. Et je voulais retrouver, voilà, ce qui avait été comme ça le berceau de la personne en devenir que je suis.
Elle est revenue sur ses pas, elle aussi, pour voir ses évolutions, les personnages des parents adoptifs dans ce roman qui sont dans le 9-3, comme on dit, 93, en Seine-Saint-Denis, ici autour de Paris, et qui étaient des communistes fervents avec cette nouvelle génération qu'elle raconte dans son roman. Qu'avez-vous, vous, trouvé, Marie-Hélène Baquet, plus de raisons de désespérer que d'espérer aujourd'hui?
Je rejoins Julie Père quand elle dit que ce monde du communisme municipal est aujourd'hui disparu. C'est un système qui a explosé. J'ai été frappée par le poids de la nostalgie chez les habitants des banlieues populaires, notamment de la Seine-Saint-Denis, et la nostalgie qui n'est pas portée seulement par des personnes âgées, comme c'est souvent le cas, mais qui est aussi souvent portée par des jeunes qui voient disparaître le monde dans lequel ils ont grandi, et notamment la rénovation urbaine joue beaucoup sur cette dimension de nostalgie. Et je pense que cette nostalgie est d'autant plus forte qu'il n'y a pas de projection dans l'avenir. Il n'y a pas de projet dans lequel ils peuvent voir leur lendemain. Alors en même temps, j'ai pas une vision non plus complètement pessimiste parce que ce que j'ai pu observer, c'est toute une série d'initiatives locales, de la façon dont les habitants se prennent en charge, se prennent en main, la façon dont cohabitent des groupes sociaux, des groupes d'origine très très différentes, dont il y a des formes d'hybridation dans cette banlieue. Donc il y a en même temps une dynamique et une force très très grande, en particulier dans le Nord, qui m'empêche d'être totalement pessimiste. Ouais, un lapsus.
Pas révélateur pour autant. La cité des 3000, on peut peut-être prendre oui. comme exemple ce lieu qui a eu une histoire qui s'est écrite au rythme de celle aussi de Citroën, qui a connu plusieurs programmes dits de réhabilitation. Est-ce qu'ils ont porté leurs fruits?
Ils ont porté leurs fruits dans la mesure où le paysage est aujourd'hui totalement transformé, mais c'est la même transformation que celle qu'on observe dans beaucoup de quartiers d'habitat social, c'est-à-dire une privatisation des espaces qui étaient des espaces communs avec des grilles partout. Alors c'est vrai que les bâtiments sont plus beaux, certains bâtiments ont été démolis. La rénovation, c'est par contre, très souvent arrêté aux façades. Et par exemple, j'ai pu visiter des halls d'entrée, voilà, où la peinture peinture fraîche s'arrêtait juste à l'entrée. Donc oui, l'image de ces quartiers a changé. Pour autant, les problèmes sociaux sont toujours là, ils se sont même aggravés. Et donc ces quartiers restent des quartiers de pauvreté, des quartiers aux franges de la ville.
On peut citer aussi l'exemple de Clichy, Montfermeil. En quoi est-ce aussi un des un des symboles ou une des communes qui marque une vraie ségrégation spatiale aussi dans cet univers.
Oui, Clichy-Montfermeil est une ville qui attend depuis des années que des transports en commun la desservent. Alors ça va être bientôt fait. Notamment, il devait y avoir un projet de tram qui, pendant longtemps, a été arrêté parce que certaines municipalités ne voulaient pas voir arriver les populations de Clichy. Donc Clichy est sans doute l'image du quartier de la région parisienne le plus relégué, le plus mis à l'écart. Il faut plus d'une heure pour aller de Clichy au centre-ville. Mais à Aulnay comme à Clichy, on a en même temps des dynamiques collectives qui sont relativement importantes. C'est à Aulnay, par exemple, que je rencontre un collectif qui se bat contre la démolition d'un bâtiment qui est aussi un centre commercial. C'est à Aulnay que une troupe de théâtre organise une visite avec un audio guide du quartier qui raconte toute l'histoire du quartier et en particulier ses rapports à l'usine. Donc il y a encore toutes ces dimensions culturelles qui sont très fortes dans ces territoires.
Ce qui est assez fascinant, c'est comment des communes pavillonnaires peuvent coexister juste à côté de cités, à quelques mètres d'écart, et comment ces deux mondes semblent complètement séparés.
Oui, le cas d'Aulnay pour cela est très frappant. On a d'un côté le vieil Aulnay à côté de la gare, qui était en fait une ville de villégiature où la bourgeoisie parisienne venait prendre le bon air au 19e siècle et qui s'est développée avec quelques petits lotissements ouvriers. Et puis de l'autre côté, au nord, on a le grand ensemble des 3000 logements. Et ces deux quartiers ne se parlent pas. Quand je rencontre Ahmed qui habite dans ce quartier, il me dit qu'il me donne rendez-vous dans un centre commercial en périphérie d'Aulnay et pas dans le centre-ville. Et il me dit qu'il ne vient jamais dans le centre-ville. Et que la première fois qu'il a côtoyé des gens du centre-ville, c'est en venant au lycée. Il était un des rares élèves de sa génération. Il doit aujourd'hui avoir 23, 24 ans à aller au lycée. Donc on a deux mondes qui se côtoient. Chacun a ses associations, chacun a ses équipements, et donc on a une fracture sociale qui est là relativement forte.
Et ça, on n'a jamais essayé de remettre, de rétablir des échanges entre ces deux blocs. Cette frontière symbolique, elle arrange qui ?
Elle arrange les classes moyennes et supérieures qui viennent s'installer dans le centre d'Aulnay ou qui sont certaines depuis longtemps et qui n'ont pas du tout envie de côtoyer les classes populaires. Quand on rencontre par exemple avec André un jeune entrepreneur qui habite Aulnay depuis quelques années et qui nous explique qu'il souhaite pas du tout que la ville se densifie parce que ça fera baisser le prix de sa maison et que voilà, il est dans une situation très privilégiée. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est qu'alors qu'il est à Aulnay depuis moins de 10 ans, il considère que les habitants des 3000 logements qui sont là pour certains depuis 30 ans, eux ne sont que de passage et retourneront sans doute un jour chez eux. Donc il y a cette dualité qui est très forte dans les rapports sociaux.
Vous parliez des colonnes vertébrales qui sont apparues aussi au fil de ce voyage. Est-ce que vous avez le sentiment que plus vous vous éloignez de Paris, plus les différences se font fortes ?
Non, je crois pas, parce que les différences sont très fortes dans des villes comme Aubervilliers, Saint-Denis, qui touchent Paris, où on a à la fois des processus de gentrification dans certains quartiers et des processus d'appauvrissement dans d'autres quartiers. Donc ces différences et ces tensions sont très fortes sur la première couronne qui aujourd'hui subit par ailleurs une pression foncière puisqu'il est de plus en plus compliqué d'habiter dans Paris pour les classes moyennes. Donc j'ai pas le sentiment que les pressions, que les tensions soient plus fortes quand on va en grande périphérie que dans la première périphérie parisienne.
Avec nous jusqu'à 13h30, la sociologue Marie-Hélène Baquet qui a réalisé avec le photographe André Merian un retour à Roissy. Retour parce que l'écrivain François Maspero, ce voyage, il l'avait fait en 1989, 30 ans après, donc en suivant la ligne du RERB. Que voit-on ? Que découvre-t-on ? Qu'apprend-on surtout ? Je vous propose d'écouter maintenant les mots du sondeur et politologue Jérôme Fourquet, l'auteur de L'Archipel français, nous parlant de ces différents îlots qui constituent aujourd'hui la France.
Alors on a des îles et des îlots de différentes tailles et de différentes natures. Le constat auquel on est arrivé, c'est que toute une série de matrices ou de structures qui donnaient sa consistance et sa cohérence à la société française se sont disloquées progressivement au cours des 40 ou 50 dernières années, aboutissant à un état de fragmentation sans précédent. Alors on a des fragmentations qui sont de nature géographique. On a en tête les travaux de Christophe Guillouis, par exemple, sur l'opposition entre la France des métropoles et la France qu'il a appelée périphérique. Je pense qu'il faut aller plus loin. On voit bien qu'au sein même des métropoles, entre les quartiers de relégation et les centres-villes, il y a des univers qui sont très très différents. Donc à côté de ces frontières géographiques, on a des clivages aussi sociologiques, culturels, avec la montée en puissance de l'accès à l'enseignement supérieur qui a abouti à une nouvelle stratification éducative avec d'un côté les bacs plus 5 et puis de l'autre ceux qui sont moins diplômés. On a également une fracture qui est liée aux appartenances religieuses ou communautaires. Et donc tout ça s'entremêle pour créer, comme vous l'avez dit, un kaléidoscope ou un archipel.
Cet effet archipel, vous l'avez constaté aussi, Marie-Hélène Baquet.
Oui, mais j'aurais une vision peut-être moins clivée. Le terme de fragmentation me convient pas, et j'opposerai pas, par exemple, la grande périphérie à la première couronne, comme le fait Guilly, parce que il y a des continuités, parce que tous ces territoires finalement tiennent ensemble économiquement. Ils sont traversés des mêmes enjeux économiques. Ils sont touchés par le poids du marché, de la pression foncière, et puis il y a des trajectoires d'habitants au fil de ces territoires. On retrouve par exemple des populations qui viennent de la première couronne, qui vont habiter en grande couronne, et donc on n'est pas dans deux mondes totalement clivés.
Mais cette photographie ou cartographie en îlot, peut-être, est-ce qu'elle vous correspond mieux que cette idée de fracture ou de fragmentation? C'est oui. L'idée d'une périphérie aussi qui aurait été pensée ou qui se serait construite malgré elle en îlots. C'est vraiment ce qui apparaît à vous lire aussi.
Hein. Oui, tout à fait. C'est une mosaïque. Il y a des îlots avec des caractéristiques très différentes selon ces îlots. Mais une mosaïque ou un puzzle tient ensemble parce que toutes les pièces tiennent et composent le puzzle. Donc oui, il y a cette grande diversité qui effectivement est frappante et qui fait jouer plusieurs couleurs. Alors effectivement, il y a la question des origines, il y a la question des milieux sociaux, il y a la question des rapports à l'emploi, des types d'emplois qui se développent dans chaque territoire. Donc il y a effectivement une grande diversité.
Quand vous faites ce voyage, on est en pleine élection présidentielle, en pleine campagne, c'est en 2017, même en pleine élection, la banlieue est pas cette fois-ci sous le feu des projecteurs. Vous racontez que l'atmosphère est assez calme, on y parle quand même un peu politique. Aujourd'hui, vous diriez que qu'est-ce qui reste vraiment très tendu dans la situation là-bas, voire explosif dans ce que vous avez pu rencontrer?
Bah, je crois que ce qu'on perçoit quand même de façon importante, c'est le sentiment d'être relégué, c'est la discrimination et la discrimination raciale qui me semble être un des éléments très très importants. C'est les rapports avec la police, avec les qui sont aussi un des éléments de tension important. Et puis ce sentiment d'inégalité. Donc dans l'interview, on entendait que la question scolaire, la question universitaire était une question qui montait de façon importante. Les résultats de Parcoursup, par exemple, la façon dont a été mis en œuvre Parcoursup, ont montré que le lieu où on habite n'est pas anodin dans l'accès à l'université. Et donc, il y a notamment chez les jeunes, le sentiment qu'on promet, la société française promet une forme d'égalité qui est toujours repoussée à demain, finalement, et qu'ils n'ont pas accès à cette égalité. Donc, c'est ce qui me semble l'élément le plus fort et qui est important dans le champ politique.
Et qui se ressent quand on y va. Au bout de la ligne du RERB, il y a ce centre névralgique, ce poumon économique aussi de la région, c'est l'aéroport Charles de Gaulle. Et l'importance qu'il a pu prendre aussi, ça c'est une des grandes différences avec le voyage qu'avait fait François Maspero il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans cette périphérie ?
Bah, il représente un énorme pôle économique et donc tout autour de l'aéroport s'est développée une périurbanisation qui est une périurbanisation là aussi très mosaïque parce qu'on a en même temps des classes populaires qui viennent travailler à Roissy, mais on a aussi des classes moyennes et des classes supérieures quelquefois qui habitent dans certains de ces territoires, dans on voit certains villages par exemple qui sont des villages très finalement très très fermés. Donc c'est un poumon économique, mais c'est aussi un poumon qui a mangé progressivement les terres agricoles. Et donc on voit là qu'il y a un véritable enjeu en termes de préservation aujourd'hui de ces terres agricoles.
Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour vous plus de mobilité pour désenclaver ? On parlait de l'exemple tout à l'heure de Clichy-sous-Bois, si près de Paris et tellement loin en transport. Il y a un nouveau projet, le projet de Charles de Gaulle Express, auquel beaucoup de riverains se sont opposés. Écoutez.
La tribune est noire de monde. Plus une place de libre dans cette salle de Mitry-Mory. Dans les gradins, 700 habitants mécontents venus adresser au préfet de région ce message. Non au Charles de Gaulle Express.
Arrêtez de dire qu'il n'y aura pas de retard. Déjà, le RERB, c'est la merde.
Car c'est bien l'argument principal de ces riverains. Pour eux, ce projet de liaison directe avec l'aéroport ne pourrait se faire qu'au détriment des usagers du RERB.
Qu'on fasse d'abord les transports du quotidien des 900 000 personnes qui prennent le RER tous les jours et qui voyagent dans des conditions épouvantables.
La ligne B est prioritaire, des centaines de milliers d'usagers et de l'autre côté 20 000 usagers. Bon, faut être sérieux quoi.
Ils espèrent encore un abandon du Charles de Gaulle Express.
Je crois que l'intelligence collective peut l'emporter et qu'on peut se dire qu'il y a des transports qui peuvent servir et les voyageurs, mais aussi les salariés, les usagers et les riverains.
Face à ces arguments, le préfet de région Michel Cadot a répété son attachement au Charles de Gaulle Express, une nouvelle ligne qui renforcerait selon lui l'attractivité de la région et serait synonyme de création d'emplois.
Marie-Hélène Baquet, mobilité égale attractivité.
Eh bien, on voit bien que là, dans ce projet de desserte de Roissy, l'idée derrière, c'est de la ville attractive, la ville touristique, dans une compétition mondiale des grandes métropoles. Donc, c'est un projet, mais on sait bien que ce projet s'accompagne d'inégalités de plus en plus renforcées. Donc, je crois que toute la question est de savoir si on est capable d'avoir un autre projet de développement d'une métropole et équitable, plus juste socialement, plus juste d'un point de vue urbain, et qui n'est pas effectivement ce projet rentrant en compétition avec les grandes métropoles, mais qui ferait sans doute beaucoup mieux vivre les franciliens et qui pourrait aussi avoir une cohérence économique.
Il faut plus d'homogénéisation aussi, justement, si on reprend cette figure des îlots tout à l'heure, il faut chercher des communs à tous ces endroits. Vous dites que la bataille urbaine aujourd'hui n'est pas finie. Quel sens, quelle direction devrait-elle prendre ?
Eh bien, je pense que le problème, c'est que quand on regarde la façon dont se met en place le Grand Paris, et notamment tous ces grands projets autour des gares, on voit que la puissance publique, finalement, a laissé son pouvoir, son intervention au secteur privé. Et on a partout des opérations immobilières. Donc,
qui ne sont pas inclusives.
Qui ne sont pas inclusives parce que ce sont des opérations qui ne visent pas les populations locales. Donc il faudrait un projet pour les franciliens et conduit avec les habitants et travailler avec les habitants. Et on est très loin de ce point de vue-là. Et puis, il faudrait un projet tout simplement de justice spatiale qui fasse en sorte que, les franciliens aient accès à la mobilité pour pouvoir utiliser l'ensemble des aménités de la capitale, mais aussi que puissent se développer des pôles de banlieue qui aient eux-mêmes leur propre cohérence. Et on en est très loin.
Oui, ça va être intéressant de voir dans 30 ans quand
tout à fait, le
un sociologue,
voyage.
Un écrivain ou une va choisir de refaire le voyage, ce qui aura évolué et dans quel sens. Merci beaucoup à vous Marie-Hélène Baquet. Retour à Roissy, un voyage sur le RERB, photographie d'André Mérian. Votre ouvrage collectif à deux en tandem vient de paraître au Seuil. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Jeanne syncopé de Mathilde Thon-Fourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Heilig avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.